Bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un beau sport en derrière. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol, la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h06 sur le 102.2 FM et en streaming partout ailleurs qu'à Lyon. C'est le Canu Info du vendredi qui revient pour ce vendredi 3 décembre. Et nous commencerons par vous parler de mineurs incarcérés qui sont en tôle pour adultes à Montpellier. Voilà, et ça, c'est vraiment dégueulasse.
On va continuer avec la journée mondiale du handicap parce que c'est aujourd'hui. Et du coup, on va se demander où en est la lutte.
Et ensuite, on vous parlera de comment les aides publiques servent à rémunérer les actionnaires, comme toujours.
Et vous croyez qu'on avait laissé tomber, mais pas du tout. Et oui, on va vous reparler du gaz de schiste et de l'accord secret entre Engie et Chenier Energy. Ça se trouve aux États-Unis.
Ah, tu prononces comme ça ?
Ah non ?
Je savais pas comment on le prononce.
Si,
quand tu parles anglais, il faut prendre un accent de ce genre, évidemment, c'est la classe. Et ensuite, on terminera par un agenda, encore un terme anglais. Et puis, évidemment, vous pouvez nous appeler pour parler de ACAB, qui, au départ, est aussi un terme anglophone. Et vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que ça veut dire ACAB, parce que nous, on l'ignore. Il faut appeler le
04 78 39 18 15.
On attend vos appels d'ici là. Il est 19h07. Bonne émission.
Sans papiers.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Et donc, on va vous parler d'une petite histoire qui se passe à Montpellier. Et ça, ça a commencé en 2016. On aimerait bien que ça s'arrête déjà hier, finalement. Donc, tout ça, c'est l'histoire d'une jeune, il y en aurait plus d'une quarantaine, des mineurs isolés, comme on dit, qui ont été accusés d'être passés pour majeurs, de s'être fait passer pour majeurs, pardon, et qui ont été condamnés à de la prison ferme. Une erreur judiciaire, car depuis, évidemment, leur identité a été confirmée par leurs ambassades. On pourrait prendre l'exemple de ce jeune Ivoirien qui est né à Abidjan et qui a passé en 2017 4 mois enfermé en prison près de Montpellier à seulement 16 ans, alors qu'il était pris en charge par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault, depuis plusieurs mois. En sa qualité de mineur isolé étranger, il a été arrêté. On lui a dit qu'il avait menti sur son identité, sur son âge, et que c'est pour cette raison qu'il allait finir en tôle. Pour cette seule raison, donc, il est au trou, et il nous dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'autres jeunes finalement qu'il a croisés dans cette situation. La CIMAD, qui défend ces personnes, nous dit qu'effectivement, il y aurait une quarantaine de MNA qui auraient été dans cette situation, qui disaient avoir 16 ou 17 ans, et l'État dit qu'ils en ont 19. Conclusion, en tôle sur la test, évidemment, des tests osseux dont on sait qu'ils ne prouvent rien, et aussi, accrochez-vous bien, des examens pubertaires. On y reviendra après, vous allez voir, ça ne manque pas de désespoir. Finalement, donc, pendant plusieurs années, il y a aussi le département de l'Hérault qui s'est constitué partie civile contre les jeunes migrants en leur réclamant le remboursement des frais d'accueil engagés pour des montants délirants et des calculs douteux. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'ils ont été accueillis par l'aide sociale à l'enfance qui a la charge de prendre soin des mineurs en France. Et du coup, quand on a dit finalement, vous n'êtes pas mineur, vous êtes majeur, on leur dit maintenant, il faut rembourser. Donc, pour prouver aux forces de l'ordre leur identité, les jeunes y montraient leur acte de naissance, le même qu'ils ont montré à l'aide sociale à l'enfance, qui les a reconnus comme mineurs. Mais les flics, ils trouvent que c'était faux, et finalement, c'est leur parole qui va suffire. Donc évidemment, les testos se sont faits, on dit qu'ils sont majeurs, et on va revenir sur ces beaux tests pubertaires, comme on dit. Donc en gros, pour ça, les enfants, ils doivent se mettre nus devant les médecins, qui vérifiaient la dentition, mais aussi les seins des filles et les testicules des garçons. Une pratique interdite par la loi, alors on pourrait imaginer depuis 1920 par exemple, bon c'est seulement 2016, mais qui était déjà interdite, et qui pourtant a continué dans l'Hérault en toute illégalité jusqu'en 2020. Heureusement, le défenseur des droits s'est saisi de la question et ils ont pu être arrêtés, mais on imagine quand même l'humiliation qu'ont subi ces jeunes à devoir se mettre à poil devant un médecin qui devra les tâter et les regarder pour définir s'ils sont majeurs ou pas. La situation ne s'améliore donc pas parce que l'Hérault porte plainte. Alors on a dit, il faut rembourser un petit peu tout ce qui a été engagé comme argent pour les accueillir. Alors le truc, c'est qu'ils ont sorti leur calculette, ils ont fait des calculs un peu à l'arrache, ils trouvaient que la prise en charge éducative, ça valait 284 € par jour et l'hébergement 56 €. Mais bon, il n'y a pas grand-chose pour prouver finalement qu'est-ce que vaut l'accueil de ces jeunes et en tout cas combien est-ce qu'il coûte. Mais en tout cas, le département, il a demandé par exemple 40 000 balles à un jeune pour les 198 jours où il a été accueilli. Pour un autre qui avait passé 352 jours pris en charge par l'aide sociale dans l'enfance, on lui a demandé, alors c'est pas tout à fait 100 000 balles, c'est seulement 99 968 euros. Et encore un autre jeune, 43 000 balles. Évidemment, les jeunes nous disent « je pourrais jamais payer ça, même en travaillant toute ma vie, puisque eux vivront du travail et pas des rentes ». Avec d'autres associations, la CIMAD mène une bataille à coups de communiqués de presse, de contestations et d'appels aux défenseurs des droits pour que le département arrête de se porter partie civile. Heureusement, pour une fois, ils ont pu gagner et cette pratique a pris fin en 2018. Malheureusement, elle perdure encore dans certains départements, dont parfois le département du Rhône. Le truc, c'est que donc on leur a dit qu'ils avaient menti, que leur test n'était pas vrai, etc. Donc ils ont fini par passer devant un juge. Et alors le juge les a condamnés à des permes de 3 à 6 mois de tôle. Donc malheureusement, on a dit qu'ils étaient adultes, donc c'est ces gamins de 16 ans qui sont retrouvés en tôle pour adultes pendant quelques mois. On peut imaginer la souffrance qu'ils ont pu éprouver, déjà que la tôle, quand on est adulte, c'est vraiment un calvaire, mais quand on a 16 piges et qu'on se retrouve dans une tôle avec tous les autres détenus, ça doit vraiment être un enfer. Il y en a aussi un qui a été envoyé au CRA et qui était à deux doigts d'être envoyé chez lui. Coup de bol, il s'en est sorti avec une histoire de météo. Et à chaque fois, le juge des libertés a fini par déclarer la détention illégale. Seulement, voilà, ils se prennent quand même quelques mois de tôle, alors simplement pour avoir soi-disant menti sur leur âge. Mais en plus, au regard de cette histoire, maintenant qu'ils en sont sortis, ils se retrouvent avec un casier judiciaire qui remplit tout ça. Et ça, pour obtenir une régularisation, malheureusement, ça va être extrêmement compliqué pour eux.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et du coup, là, on va vous parler de la Journée mondiale des personnes handicapées. Bah oui, parce que c'est aujourd'hui. Alors, vous savez, c'est un peu comme la semaine dernière. C'était la journée des violences faites aux femmes. Ces journées internationales qui succèdent pour que pendant une journée, on puisse dire qu'on pense à certaines discriminations, à certaines violences, dont on passe pourtant toute l'année à les invisibiliser, à ne pas vouloir les voir quand on ne les perpétue pas. Alors, aujourd'hui, le handicap. Le handicap, ça touche 12 millions de Français et de Françaises et ça représente, parce que c'est aussi un marché, plus de 50 milliards d'euros de financement. Alors que le secteur est en pleine marchandisation, il y a des militants et des militantes qui dénoncent les dérives des grosses associations gestionnaires d'établissements et qui ont envie d'être un peu plus entendues. Alors, on s'était dit que c'était l'occasion, aujourd'hui, de vous en parler, de faire un petit point d'étape de qu'est-ce qui se mobilise autour de ces questions-là. Notamment, on a trouvé un dossier pas mal fichu sur Mediapart. Alors bon, faut avoir des codes pour Mediapart. Je vais essayer de vous faire un résumé de ce dossier, de ces deux, trois articles qu'on a pu lire cette semaine. approche paternaliste du handicap. Dans un rapport publié en septembre, le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU critique sévèrement la France. On se rend compte quand même en aparté qu'on vous cite quasiment tous les mois des rapports d'énormes institutions internationales qui disent que la France s'est pourrie en matière de répression comme en matière de gestion des discriminations. Donc non seulement les discriminations subies par les personnes handicapées restent massives dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, etc., mais la France conserve une législation et des politiques publiques fondées sur le modèle médical, où l'institutionnalisation est la norme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'institutionnalisation ? Selon les auteurs, je le répète dans du rapport de l'ONU, les personnes handicapées restent trop souvent placées dans des institutions qui restreignent toute leur liberté, les séparent et les isolent de la collectivité, leur ôtent le choix et le pouvoir de décision en matière de lieu de vie et de mesures d'assistance. Résultat, c'est une ségrégation et spatiale et sociale. C'est des centaines de milliers de personnes handicapées qui passent en effet leur vie depuis l'enfance en institutions spécialisées. Ces places sont proposées par des organismes majoritairement associatifs à but non lucratif ou public, mais c'est vraiment que 11%, auxquels l'État a délégué depuis des décennies la gestion de l'aide sociale aux personnes handicapées. Ces organismes gèrent ainsi la moitié des 54 milliards de financements annuels alloués aux politiques du handicap. Donc de qui on parle quand on parle de ces grosses assos ? On parle pour partie de l'UNAPI. Alors l'UNAPI, c'est l'Union Nationale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis. Ça, c'est un quart des établissements. On parle aussi de l'Association des Paralysés de France, France Handicap. Ça, souvent, on dit APF. Et vous pouvez retenir APF, Association des Paralysés de France, France Handicap, parce qu'on va en reparler. Et eux, ils possèdent 466 structures d'accompagnement pour 35 000 personnes. C'est énorme comme association. Et il y a aussi l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ça s'appelle l'ADAPT. Et ça gère 109 établissements et ça accompagne plus de 18 000 bénéficiaires. Vous vous rendez compte de la taille de ces associations. Quand on parle du secteur associatif, ça n'a rien à voir avec, évidemment, votre asso de quartier. Donc, ces trois grosses assos, on peut dire que c'est des assos gestionnaires. Donc, ces assos gestionnaires de services valident en partie les conclusions de l'ONU. Elles sont d'accord sur le recours excessif aux institutions spécialisées. Car elles se revendiquent toutes de la désinstitutionnalisation ou donc de la transition inclusive. Ça fait beaucoup de mots et oui, voilà, on rentre dans le jargon du social. Et assurent qu'elles mettent en place des stratégies pour substituer la prise en charge au domicile à la prise en charge dans un établissement. Alors, est-ce que les associations, du coup, elles sont d'accord pour dire que c'est l'État qui fait n'importe quoi alors que concrètement, c'est elles qui gèrent sur le terrain ? Il y a des collectifs protestataires et antivalidistes, comme le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, qui voit dans ses déclarations pour la société inclusive un écran de fumée, destiné à protéger les institutions spécialisées et maintenir le statu quo. Dans une déclaration de septembre dernier, elle cible en particulier l'APF. L'APF, si vous avez bien suivi, c'est donc l'Association des Paralysés de France, visée sur les réseaux sociaux avec le mot-clé hashtag APF hors de nos luttes. Même moi, quand je l'avais vu passer en septembre, je n'avais pas forcément compris. Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce sont ces assos gestionnaires qui ont toute la thune de l'État et qui mettent en place la politique de l'État et qui, en plus, se permettent de critiquer l'ONU en disant « Ah mais non, nous, on est les associations, on n'est pas l'État. » Et ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de se mobiliser contre ces politiques.
Et peut-être même si je me permets, en fait c'est l'État qui dit nous on a besoin de ça, et du coup les grosses associations se battent entre elles pour pouvoir capter ces financements-là, et du coup répondre exactement à la demande de l'État en termes de prise en charge, et évidemment au moins cher possible, puisque c'est comme ça que l'État choisira. Donc c'est en plus un concours entre ces grosses assos pour être au moins cher possible, pour répondre aux exigences de l'État autant que possible.
Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ce collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation ? On va vous dire un petit bout de leur communiqué. Il est évident que l'APF n'a pas la moindre intention de remettre en cause les lieux d'enfermement et d'exploitation qu'elle gère. Ces associations préfèrent assurer, moyennant finance, du coup c'est ce que tu dis, la survie de leur établissement et celle d'un système de discrimination généralisée, alors que le droit international les condamne et que les comités de l'ONU réclament à la France leur fermeture, précisément pour ce qu'ils sont. Des structures de privation de liberté et d'exploitation par le travail, où nous ne sommes en rien protégés, mais vulnérabilisés, réduits et réduites à nos handicaps, où les violences sont multipliées et dissimulées, où nos paroles sont tues, où menaces et impunités font loi. Ça, c'était un bout du communiqué. Et alors, il y a une personne qui est cofondatrice de ce collectif, qui s'appelle Elisa Rojas, qui dit « Tant que les personnes handicapées seront représentées par les associations gestionnaires, il n'y aura pas d'issue. Et elle affirme qu'il faut déposséder les associations de leur financement, car elles sont juges et parties partout. Voilà, le problème, c'est qu'elles prennent tout et que du coup, bon ben... Il y a une instance pourtant qui est censée faire vivre la démocratie. Il y a toujours un peu ça généralement. Ça s'appelle le Conseil consultatif, donc déjà on se rend compte qu'il est consultatif, national des personnes handicapées, qui est institué par la première loi sur le handicap. Ça date de 75. Toutes ces constructions, c'est aussi la même chose sur la dépendance, ça date vraiment des années 70, et puis ça a continué à se construire depuis. Et alors, ce Conseil consultatif, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'État y construit les politiques publiques en concertation avec les associations gestionnaires, puis les associations sont en charge de les appliquer et de gouverner les personnes concernées. Or, cette co-gestion confisque le débat en confinant les discussions dans les salons feutrés de l'avenue du Ken au ministère de la Santé. Et donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les voix les plus radicales, elles sont écartées et qu'il n'y a aucune place pour des organisations par le bas, communautaires ou de premières personnes concernées. Ça, c'est moi qui le dis, pas Mediapart. Mais voilà. Alors, pour revenir à ce petit rapport de l'ONU, le rapporteur du comité onusien, qui s'appelle Jonas Ruskus, a d'ailleurs critiqué vertement le fonctionnement de ce Conseil consultatif national des personnes handicapées, qui est jugé peu démocratique, entre autres parce que la nomination des membres relève du ministère. Je pense que ça suffit pour comprendre comment sont prises les décisions. Pour vous dire, on trouve ça intéressant, on n'a pas le temps dans tous les canuts info de décortiquer une politique gouvernementale, mais finalement, c'est un bon moyen aujourd'hui de s'y plonger, puis c'est des systèmes qu'on va retrouver dans d'autres secteurs, hein, social ou du logement, par exemple. Pour continuer, ce système de régulation néo-corporatiste, on peut dire ça aussi pour employer des mots compliqués, est tellement stable qu'il bloque l'émergence d'alternatives. Donc, concrètement, ça veut dire que des initiatives ont été empêchées lorsque certains acteurs ont tenté, par exemple, de faire sortir l'autisme de la psychiatrisation, de fermer les établissements aux services d'aide par le travail. Alors ça, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est les ESAT. Mais du coup, il y a plein de collectifs qui se mobilisent pour fermer les ESAT. Et pourquoi ? Parce que le droit du travail ne s'y applique toujours pas. Et que les personnes, elles travaillent, comme on pourrait dire, en prison aussi, vraiment pour très très peu d'argent et avec pas de protection ou peu de protection sociale.
Parce qu'on leur laisse déjà l'immense chance de travailler et de participer. Et après, ils veulent en plus un salaire, c'est quand même étonnant.
Il y a d'autres collectifs qui, par exemple, ont essayé de militer pour fermer les instituts médico-éducatifs, les IME, peut-être vous en avez entendu parler aussi, qui sont considérés comme inadaptés aux besoins des enfants, on pourrait dire aussi d'autres centres de privation de liberté. Donc pour beaucoup d'acteurs et d'actrices, finalement, ce compromis là de travailler avec des associations gestionnaires, c'est vraiment plus acceptable. Et l'État se révélant dans l'incapacité de tenir ses promesses, c'est-à-dire une sortie de l'institut, enfin, j'arrive plus à dire, mais vous le voyez bien, le fait de mettre tout le monde en institution. Certains et certaines montent donc leur propre structure, financée par des fondations privées. Mais c'est difficile quand même de critiquer ouvertement les arbitrages politiques. En tout cas, c'est difficile de faire entendre cette critique qui est très, très peu médiatisée. Je vous en parlerai à la fin, mais il y a eu un gros combat qui existe encore pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Et que c'est un combat qui est difficile à mener, notamment pour le faire entendre dans les médias. Je vous en parle dans 5 minutes. Vous êtes obligés de continuer à écouter ce Canu Info. Mais pour rester sur, et pour finir peut-être sur les associations gestionnaires, pour expliquer que... au milieu de tout ça, en plus, ces assos, elles se font des thunes. Et oui, parce que malgré la crise du Covid, les grandes associations se portent bien. On a quand même des fois un peu accès à leurs finances. Et heureusement, d'autres journalistes que nous épluchent ces comptes et nous font des petits bilans. En 2020, le secteur médico-social et sanitaire de l'APF, je ne vous ferai plus l'affront de vous dire ce que ça veut dire, continue à créer des places et à accroître les moyens humains au service des personnes accueillies, précise son rapport d'activité 2020. En vrai, ça veut dire que l'APF France affiche ainsi un excédent global de 25 millions d'euros, oui, oui, contre 5,2 millions d'euros en 2019. Vous avez vu le saut quand même, hein, ça fait quand même 20 millions d'euros de plus. Grâce notamment, et là je cite hein, leur rapport d'activité, 10 millions d'euros d'économie de fonctionnement, les pouvoirs publics ayant priorisé le retour à domicile pendant les confinements, tout en maintenant les dotations, les augmentant même pour les établissements d'hébergement, les crédits ont donc été sous-consommés. Visiblement, ça leur est pas venu à l'esprit de les attribuer ailleurs. Pour le sociologue, parce qu'on vous cite aussi des sociologues, et là, on va vous parler de Claude Thiaudière, qui est spécialiste de la protection sociale, ces réformes correspondent à la volonté constante de restreindre le coût économique de l'activité médicale et de l'aide sociale. Il s'inquiète donc d'une forme de marchandisation du secteur, alors même que la réponse aux besoins de personnes handicapées est une obligation d'État, selon le principe d'invalidité qui justifie l'incapacité de travailler. C'est une inquiétude qui est bien peu audible et qui mériterait beaucoup plus de débats. Alors, oui, dans les studios, on veut prendre la parole.
Oui, pour rajouter un petit mot aussi sur ces associations, il y a aussi une critique à faire de tout leur discours médiatique qui, en fait, fait souvent deux figures de la personne en situation de handicap qui sont soit la figure complètement misérabiliste sur laquelle il faut pleurer une fois par an, l'exemple de ça étant évidemment le Téléthon, où on met en scène les pauvres gens à qui on permet voilà, ce genre de choses, ou alors on va faire réaliser ses rêves à un enfant myopathe en le faisant rencontrer un joueur de foot, etc., mais sans aucune espèce de visée collective. Et puis souvent, en plus, en donnant beaucoup dans ce truc misérabiliste, plutôt la parole en fait, aux proches qu'aux personnes elles-mêmes, qui sont souvent toujours infantilisées, en fait, et donc on va montrer à quel point c'est dur d'être un parent, par exemple, d'enfant trisomique, etc., sans aller se concentrer sur le vécu des enfants à qui, finalement, on n'accorde pas grande importance. Et c'est sans doute ce qui se rejoue aussi sur l'institutionnalisation, c'est-à-dire prendre soin des proches peut-être avant des personnes. Donc ça, c'est d'un côté le discours misérabiliste, et de l'autre, un discours qui est, pareil, trois fois long. On va ressortir notamment le champion qui a su se dépasser, donc qui va devenir une figure du discours néolibéral, du dépassement de soi-même, et du « quand on veut, on peut ». Alors ce champion, souvent, c'est effectivement un champion paralympique. À chaque fois, là, on a eu des Jeux Olympiques récemment, nous a montré à quel point, regardez, Monsieur X, il n'a pas de bras, et pourtant, lui, il se bouge, et du coup, ça envoie le message à toutes les autres personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, que finalement, bah, en fait, si elles réussissent pas à faire grand-chose, bah, c'est bien de leur faute, en fait, puisqu'il faut savoir se donner les moyens. Ou alors, l'autre version de ça, c'est des fois quand on a un politicien qui souffre momentanément d'une maladie chronique ou d'un handicap, qui va être monté en exergue en disant « Regardez, il fait son sacerdoce au service du bien commun », ce qui en général n'est pas vrai du tout. Mais du coup, on a vraiment toujours cette alternance en fait, entre l'handicapé, c'est soit quelqu'un qui se surpasse, c'est soit le surhomme, soit c'est une merde dont on doit avoir pitié.
Alors, on critique, mais du coup, on fait quoi? Parce que quand même, il y a des personnes qui s'organisent, et nous, on n'est pas que dans la critique dans le Canut Info du vendredi, donc on va vous parler de tous ces collectifs. Tu te dis que ça doit être trop dur de vivre en tant qu'handicapé, genre tu pries pour ne surtout jamais l'être. Tu admires le courage quasi héroïque des handicapés. Tu te rassures avec le Téléthon. Tu hésites à savoir si un ou une handicapée est ultra débile ou hyper intelligente. Le validisme, ça te concerne. C'est avec cette cinglante série de questions que le terme de validisme est entré, en 2004, dans le vocabulaire des militants et des militantes françaises des droits des personnes handicapées, sous la plume de l'activiste Zig Blanquer, dans un texte intitulé « La culture du valide occidental ». Aujourd'hui, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, rejette toujours le terme. Mais de plus en plus de militantes et de militants se démènent pour l'imposer, et on trouve qu'il est intéressant ce terme de validisme dans ce qui va pouvoir permettre de développer. Par exemple, on pourrait caractériser le validisme comme la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Et ça, c'est intéressant comme définition pour essayer de déconstruire les discriminations et les violences qu'on peut perpétrer. C'est aussi qu'à la vision médicale du handicap, qu'il faudrait réparer, elle substitue celle du handicap comme construction sociale. C'est donc la domination des personnes handicapées n'est pas une donnée biologique, elle est construite socialement. Et c'est pour ça qu'il est intéressant aussi ce terme de validisme. Et ça permet aussi de dire qu'on n'a pas forcément envie de parler que de handiphobie. Vous savez, souvent on dit des trucs comme quelque chose phobie. Comme par exemple, on pourrait dire que la négrophobie, ça peut être une expression que peut prendre le racisme. La handiphobie, ça peut être l'une des formes que peut prendre le validisme, mais c'est pas la seule. Du coup, ça permet de penser les discriminations de manière plus large et de manière systémique comme un système d'oppression. Ce validisme, il se vit au quotidien dans les relations avec les autres. Par exemple, on pourrait dire de la secrétaire qui, au boulot, au lieu de serrer la main d'une personne, eh ben, va lui passer les mains dans les cheveux. Par exemple, une autre manière de parler des relations sexuelles ou de plein de choses différentes. Ça se vit aussi de manière structurelle. Ce n'est pas uniquement le commerçant qui va vous parler comme un enfant juste parce que ce jour-là, vous avez du mal à formuler des phrases. C'est entendre « Désolé, il n'y a aucun logement dans votre ville pour vous accueillir, aucun moyen pour vous d'accéder au café du coin, d'utiliser le service en ligne de la poste, etc. » Alors, pour Mediapart, aucune et aucun des militants qu'ils ont interrogés n'oublie les reports depuis 2015 de l'obligation d'accessibilité universelle des établissements accueillants du public. Ou plus récemment, la modification de la loi Elan qui fait passer de 100% à 10% l'obligation de logements accessibles dans les constructions neuves. Donc on voit aussi que toujours pareil, derrière les grands discours, il n'y a absolument pas de politique réelle d'accessibilité. Il y a Charlotte Puiseux qui est l'auteur d'un petit dictionnaire du validisme et qui ajoute « Le validisme fait que la vie des personnes handicapées a moins de valeur que celle des personnes dites valides. Au quotidien, on n'estime pas si grave qu'une personne handie reste cantonnée chez elle. Au début de la pandémie, avec le triage à l'hôpital, il était clair qu'une vie de personne handicapée valait moins que celle d'une personne valide. En France, depuis plusieurs années, le handicap est le premier facteur de discrimination recensé par la défenseur des droits. Changer ses représentations, ça veut aussi dire pouvoir donner des outils, des instruments de défense auxquels les personnes des générations anciennes n'ont pas eu accès. Et donc du coup, cette parole-là, c'est aussi intéressant, comme tu le disais tout à l'heure, qu'elle soit portée par les personnes elles-mêmes et qu'elle ne soit pas récupérée pour être portée par d'autres personnes valides. Pour finir, du coup, j'avais envie de vous parler d'un combat qui est maintenant, et du coup c'est chouette aussi parce que c'est quelque chose qu'on peut soutenir. C'est un mouvement de personnes handicapées qui s'est créé en décembre 2020 lors de la mobilisation contre la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Donc vous voyez, il y a une allocation qui existe qui s'appelle l'AAH, l'allocation adulte handicapé, mais elle est calculée pas selon vos propres revenus, mais aussi selon les revenus de votre conjoint, ce qui du coup vous discrimine à partir du moment où vous êtes en relation officielle avec quelqu'un qui gagnerait plus d'argent, ce qui évidemment joue énormément sur votre autonomie financière. C'est en gros une prise en compte qui fait perdre aux allocataires une partie de leurs droits quand il et elle se déclarent en couple. Il y a une pétition qui, du coup, en décembre 2020, a réuni plus de 100 000 signatures. Il y a des personnes qui disent « Alors que j'étais résignée jusque-là, je me suis rendu compte avec ce combat qu'il n'était pas impossible de se faire entendre. » Et si c'est intéressant, cette pétition, on ne vous parle pas souvent des pétitions en Canu Info, c'est que ça a permis, et c'est vraiment difficile, de médiatiser cette question du calcul de l'AAH. Si cette mobilisation a donné de l'espoir pour certains, d'autres sont encore pessimistes. Cette revendication a plus de 15 ans et encore une fois, il ne s'est rien passé. Il faut dire que le gouvernement, Sophie Cluzel, si vous avez bien suivi, c'est la secrétaire d'État, a tout fait pour que le combat législatif n'aboutisse pas. Les antivalidismes n'attendent pas grand-chose d'elle, qui a déclaré ne pas connaître le terme et refuser complètement l'opposition de deux mondes, celui des valides et celui des non-valides. Cela témoigne du stade dans lequel se trouve la lutte antivalidiste en France. En retard, comme tout le reste, les luttes antiracistes notamment. C'est ce qu'elles disent les associations actuellement. Pour vous dire aussi que, par exemple, ça, c'est un combat concret sur lequel vous pouvez vous mobiliser. Et pour finir, ça donne aussi envie de vous dire, allez essayer d'écouter dès que ces voix sont audibles, des personnes qui s'organisent. On peut vous conseiller, par exemple, d'aller traîner sur le site des dévalideuses qui régulièrement donne des analyses qui sont faites par les premières personnes concernées, qui aussi croisent les questions féministes sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos organisations collectives, aussi dans nos organisations anti-autoritaires, prendre en compte la question du handicap et du validisme, mais notamment actuellement autour des questions de Covid, c'est quand même méga intéressant.
Et juste pour conseiller un autre truc positif et dire un peu de mal comme de Sophie Cluzel, dans ce que je disais tout à l'heure sur les discours insupportables, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler de leçons de vie. Donc elle va rencontrer une personne dans une situation de handicap donnée et elle va dire « Ah, c'est une super leçon de vie !» Parce que regardez quand même, cette personne, elle est en fauteuil roulant, mais elle a quand même le sourire. Enfin, c'est vraiment des discours qui effectivement sont assez infâmes et qu'elle répercute en permanence. C'est pas la seule, hein, bien sûr, puisque effectivement, pour l'instant, la déconjugalisation a encore échoué grâce, entre autres, enfin essentiellement à la majorité En Marche au pouvoir. Etc. Mais pour juste un truc, pour une fois, on va faire aussi de la pub d'un truc dont on n'a pas l'habitude. Il y a un excellent documentaire actuellement qui s'appelle Crip Camp, qui est accessible sur Netflix, si on peut vous procurer des codes, ou sinon, peut-être vous arriverez à le trouver autrement. Et Crip Camp est un documentaire vraiment très bien fait sur en fait, la construction des luttes handi aux États-Unis à la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Et notamment, ça part, en fait, je vais pas raconter beaucoup plus, mais ça part effectivement, en fait, de colonies de vacances un peu auto-organisées par des personnes handies, qui étaient à la fois les monos et les personnes accueillies dans ce creep camp. Et au fur et à mesure, un bon nombre de ces personnes qui vont se rencontrer dans ce camp, qui a un peu des aspirations hippies, etc., vont se politiser et vont aller, en fait, imposer, en fait, aux ce qui vient de l'Assemblée et du gouvernement des États-Unis, de prendre un certain nombre de mesures, et ils utilisent notamment un certain nombre de stratégies comme bloquer des flux et comme occuper des lieux, par exemple, qu'on peut retrouver par ailleurs. Je trouve un documentaire assez beau, justement, dans ce truc de montrer des choses qui luttent et pas du misérabilisme ou je ne sais pas quoi.
Eh bien, ça ne va pas être facile de reprendre après tout ça. Mais on va quand même essayer et on va finalement en parler de comment est-ce que collectivement est-ce qu'on aide les personnes handicapées et des fois le pognon ça sert, mais ça sert surtout quand il tombe pas dans les poches des actionnaires. Et bon, on le sait, avec le Covid, le CAC 40 a été abreuvé d'aide publique comme jamais. Alors en 2020, on vous disait déjà il y a quelques mois qu'il s'était versé l'équivalent de 150% des bénéfices en dividendes. Mais rassurez-vous, ça continue puisque cette année, on tape sur 51 milliards d'euros, soit 140% des profits de l'année. Mais en plus de ça, parce que là, jusqu'à maintenant, ils se reversaient des dividendes sur des bénéfices qu'ils ne faisaient pas, c'était déjà rigolo, mais pourquoi pas. En plus, là, il y a 6 milliards qui sont consacrés à des rachats d'actions propres au premier semestre 2021. Alors, ça paraît un petit peu obscur tout ça, mais c'est quand même toujours intéressant de comprendre, sinon on se finit toujours par se faire rouler. En gros, en rachetant les actions, le CAC 40 se rachète ses propres actions, et du coup, elles sont plus rares, et du coup, le cours augmente, et du coup, ils peuvent les revendre plus cher. C'est plutôt malin et plutôt bien joué, mais ça, il faut avoir énormément de pognon. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a quand même une petite pandémie mondiale avec beaucoup d'argent qui a été investi par l'État. Et a priori, aujourd'hui, ce serait à peu près 17 milliards d'euros qui auraient été versés aux entreprises du CAC 40. Pour faire une petite comparaison, parce que 17 milliards d'euros, on est bien loin de savoir à quoi ça correspond réellement, ça permet par exemple de financer 34 hôpitaux publics, 400 lycées, ou éventuellement d'engager 320 000 personnes au salaire moyen pendant un an, ou de rénover 340 000 passoires énergétiques. En mai dernier, l'Observatoire des multinationales avait montré dans le rapport Allo-Bercy comment le gouvernement, en refusant de mettre des conditions aux aides publiques massives pendant la pandémie, avait laissé carte blanche aux grands groupes pour prioriser les dividendes et supprimer des milliers d'emplois. 6 mois plus tard, rien n'a changé, et comme le montre une nouvelle note de ce même observatoire. Les groupes du CAC 40 ont approuvé encore 3 milliards de dividendes supplémentaires. Et ils ont commencé à verser des acomptes sur les dividendes de 2022 qui, a priori, seront spectaculaires. Mais dans la même année, les aides publiques ont été maintenues. Ça, c'est le « quoi qu'il en coûte, il faut sauver les entreprises » de Emmanuel Macron. Il oublie souvent à la fin de la phrase, mais de temps en temps, il faut lui rappeler. Ces sommes mirobolantes, parce que quoi qu'il en coûte, c'est pas pour sauver les emplois, elles sont à mettre au regard justement des emplois détruits. Par exemple, LVMH, qui produit que des trucs qu'on ne pourra jamais s'acheter, en a supprimé 13 000 en 2020. Et ça l'a pas empêché d'avoir 5,3 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. BNP Paribas, c'est 5 500 emplois qui sont passés à la trappe en 2020. Et il a acté en septembre le versement d'un dividende supplémentaire de 2 milliards d'euros et 800 millions pour se racheter des actions. Et le grand champion, ce sera ArcelorMittal, dont on nous promettait que ça allait être vraiment le nec plus ultra, qu'il fallait absolument cette fusion. Et ben, il a fallu absolument cette fusion, et aujourd'hui on se retrouve avec 23 500 personnes qui ont perdu leur emploi à cause d'eux. À la fois cause et conséquence des records boursiers présents du CAC 40, le rachat d'actions propres est donc une pratique courante des grandes entreprises. C'est avec les dividendes, une autre façon de favoriser les actionnaires. Le principe est simple. Elle rachète donc ses actions en vue d'en réduire le nombre et d'augmenter la valeur. Une belle opération gagnant-gagnant. Bon, alors malgré tout, après toutes ces tristes nouvelles, on va quand même parler rapidement pour se remonter le moral d'une initiative intéressante. Et pour une fois, accrochez-vous bien, elle nous est proposée entre autres par des parlementaires. Donc c'est en lien avec l'Observatoire des multinationales et puis il y a aussi Anticor et d'autres personnes dedans. Mais il y a donc Mathilde Panot donc de LFI, Elsa Fossillon du PCF, Christine Pires-Beaune du PS, et Émilie Cariou, ex-LERM, et aujourd'hui non inscrite parce que quand même...
Ça part en cacahuète, hein, ouais.
Attention. Et même une sénatrice écolo, Sophie Taillé-Poilon. En gros, elles vont porter une commission d'enquête parlementaire informelle parce que les règles de l'Assemblée ne permettent pas finalement d'en faire une vraie, c'est quand même un peu con, qui a pour but d'évaluer l'impact des aides publiques aux entreprises. Parce qu'en fait, comme pour le CICE, il y a du pognon qui est dépensé à gogo, il y a du pognon qui est donné aux entreprises, toujours avec carte blanche. Mais s'il y a évidemment des gens qui travaillent sur la question, l'État n'a aucune instance qui se préoccupe de savoir, tiens, à quoi ça a bien pu servir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas eu des emplois supprimés, à qui c'est allé et qu'est-ce que ça a fait tout ça. Alors que par contre, quand il s'agit de faire la chasse au chômeur qui ne veut pas travailler et à la personne qui gratte le RSA, là par contre, on trouve beaucoup de temps pour s'occuper de tout ça. Enfin bref. En tout cas, espérons qu'elles auront à cœur de mener ce travail jusqu'au bout et qu'enfin l'État reconnaisse qu'il verse des aides non pas au nom de l'intérêt commun, mais au nom des entreprises et des actionnaires.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les autres sources, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi de cas de cancer. Oh, Steve, ça a l'air vilain, non ?
Il nous faut plus de profs. Plus de profs. Plus de profs.
Attention ! On va en arriver à des extrémités ! Il y a des dépôts qui vont se mettre à flamber ! Faudra pas demander d'où ça vient !
Et oui, retour un peu de la rubrique du
une rubrique phare.
Ah mais ouais, c'est bah j'ai juste une nouvelle passée. Du coup, je me suis dit putain quelle bonne occasion de passer ce magnifique jingle du gaz de schiste évidemment. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Le Monde. C'est un truc qui a été révélé par Le Monde aujourd'hui même, je crois, sur la base de documents qui ont été récupérés par je ne sais quel moyen. Par l'ONG Les Amis de la Terre. Donc, mais avant de vous expliquer ce que c'est que cette affaire, petit retour en arrière, et notamment en automne 2020, où en fait, alors déjà cette affaire, pour vous le dire, parce que là j'en parle comme ça, c'est en fait Engie, donc EDF, ex-EDF Suez, qui a signé un accord un peu en loose day. Avec l'américain Chenier. Alors je vais dire Chenier, moi, Chenier Energy, parce que je ne sais pas comment on le prononce. Et alors pourquoi ça fait un petit foin ce truc-là et ben, donc petit retour en arrière, en fait, Engie a déjà tenté de signer de tels accords. Et donc ça, c'était en automne 2020, où ils avaient essayé de signer un accord avec le groupe américain Next Decade. Voilà, donc d'ailleurs le nom est assez rigolo hein, pour ce genre de truc énergétique, voilà, Next Decade. Donc l'idée à l'époque, l'année dernière, c'était d'importer pendant 20 ans du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Alors évidemment, ça la fout un peu mal pour la France, qui l'a interdit depuis 2011. Et puis avec tout le foin sur le truc climatique, évidemment, ça n'a pas trop passé. À l'époque, ils en avaient fait, ils l'avaient annoncé au conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration de Engie, c'est l'État français qui en possède de 23% du capital et il a 34% de droits de vote à ce conseil-là. Et du coup, bah, à l'époque, c'était pas trop passé ça, et, parce que le grand écart n'était pas trop assumé par l'État. Et donc voilà, donc ça c'était, alors oui, et puis autre truc très rigolo, c'est que Engie vise toujours, j'imagine, 100% de gaz vert dans ses réseaux européens en 2050. Et donc là, avec cet accord, c'était plutôt mal parti, puisque il serait devenu le premier importateur européen de gaz de schiste, donc pas mal comme gaz vert. Bon, en même temps, maintenant, même le nucléaire va devenir vert, donc au final, c'est pas tellement
quand
surprenant.
Quand le nucléaire devient un gaz vert, c'est chiant.
Donc voilà, on peut nous faire passer n'importe quoi. Mais bon, et bref, en tout cas, ils ne sont pas laissés démonter, Engie, et ils ont conclu un accord plus ou moins secret avec une autre boîte qui s'appelle Chenier Energy.
Que dit, dis-moi donc, oui, Engie.
Energy. Et donc, le but de ce contrat, c'est un approvisionnement entre jusqu'en 2032 de gaz de schiste. Et donc, en fait, pourquoi c'est révélé maintenant ? Bah, parce qu'en fait, l'approvisionnement a déjà débuté. Et oui, c'est pas juste l'accord qui a été conclu, mais l'approvisionnement a débuté en septembre. Et donc ça, maintenant, c'est jusqu'en 2032. Donc l'accord est, et c'est fini là maintenant. Voilà. Donc mais on peut en parler. Et, du coup, c'est un peu ça. Et donc, du coup, je disais, voilà, donc un accord de, avec l'industrie Cheniere Energy pour livrer du gaz de schiste jusqu'en 2032. Alors, comment ils sont démerdés ? En fait, le Monde dit que ce nouveau contrat d'achat a été directement validé en comité exécutif, c'est-à-dire sans l'aval du conseil d'administration. Et le gouvernement, d'ailleurs, semble-t-il, a confirmé ne pas être informé de cette opération, mais que cette décision est une décision qui relève d'une décision interne de l'entreprise, dit le ministère de la Transition écologique. Et en fait, effectivement, dans le règlement intérieur du conseil d'administration, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que l'autorisation préalable des administrateurs n'est requise que pour un contrat à long terme de gaz équivalent à 30 milliards de kilowattheures par an. Et là, ah ben dommage, c'est en dessous. Donc, Engie s'est passé du conseil d'administration. Et alors, on imagine très facilement qu'il y en avait certains qui devaient être au courant. En tout cas, officiellement, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Alors oui, à titre, je vous dis que c'est en dessous, c'est 12,3 milliards de kilowattheures, si on veut avoir des chiffres. Voilà.
Et ça correspond à quoi ordre de grandeur, par exemple, par rapport à chauffer un logement?
Ah ben ça, je peux pas te dire. Là, j'ai pas le chiffre sur ma feuille.
C'est raté. Beaucoup de logements, quand même, oui, pendant longtemps.
Mais je pense que c'est pas un seul logement. Mais ça, je peux pas te dire. Cette information, je l'ai pas. Alors, et du coup, en fait, donc ce contrat, alors Engie a tout fait pour que ça reste un peu dans l'ombre, hein, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, ils avaient peur de se faire têche. Je vais pas essayer de le dire. Cheniere a quand même a fait un peu la même. Donc parce que ce truc est resté dans l'ombre jusqu'à ce qu'une lettre déposée par l'industrie l'entreprise américaine auprès du département de l'énergie américain soit finalement mise en ligne par les autorités fédérales. Et puis identifié par la presse, parce que c'est d'abord la presse américaine qui a sorti le truc, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le côté, dans la lettre qui a été communiquée par l'entreprise Cheniere, demandait expressément aux autorités de garantir la confidentialité du contrat, et qui a priori cette pratique-là ne semblait pas être une pratique très coutumière de cette entreprise, qui plutôt classiquement révélait à chaque fois ses contrats commerciaux ou je ne sais quoi. Donc bref, voilà, donc tout laisser entendre que jusqu'au dernier moment, ils ont voulu que ça fasse le minimum de vagues. Donc voilà. Et alors, dans ce contrat, alors pourquoi aussi c'est un truc un peu... Alors, outre le fait que évidemment on parle de gaz de schiste, et donc ça va complètement à l'inverse de tout ce qu'on peut entendre actuellement sur le dérèglement climatique et la réduction des énergies fossiles. Mais il y a un peu d'autres choses en plus derrière, enfin d'autres crasses sur ce contrat-là, justement au fait que le gaz de schiste, c'est quand même une exploitation bien pourrie. L'analyse, alors dans le contrat qu'a signé Engie, l'analyse environnementale, donc contenue dans les documents internes, précise que, ça c'est plus pour la blague, précise que ce gaz ne viendra pas se substituer à d'autres sources d'énergie fossile. En même temps, vu ce que c'est comme merde, de toute façon, on ne sait pas trop à quoi ça va se substituer. Remplacer un truc crade par un autre truc crade, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, Engie se contente de mentionner dans sa note interne que Cheniere s'est engagé à évaluer à partir de 2022 l'impact du cycle de vie de ses cargos. Parce que c'est trimballé par cargo, je vous ai fait fi de l'itinéraire, du détail des différents itinéraires, mais a priori le cycle de vie il est plutôt long. Le groupe reconnaît donc implicitement avoir signé sans connaître l'impact climatique du contrat et sans même pouvoir garantir la qualité et les résultats de l'évaluation promise. Mais pire que ça, les éléments du dossier, de ce dossier qu'on appelle... ah oui, ce dossier, j'ai oublié de le dire, il a un petit nom, il s'appelle Mustang. Voilà, c'est pour faire américain, je pense. Donc, dans ce dossier confidentiel Mustang, l'origine, donc on peut y trouver que l'origine du gaz est inconnue. Voilà, ce gaz serait intraçable et pourrait provenir sans distinction de plusieurs États et d'environ 70 producteurs américains. Les documents précisent en outre que Chenière ne pose aucune exigence supplémentaire à ses fournisseurs en matière d'émissions de gaz à effet de serre ou de gestion de l'eau, puisque je vous rappelle que la fracturation hydraulique, c'est une énorme pollution de l'eau. Donc, quitte à dézinguer le climat, aussi autant dézinguer l'eau en même temps, hein, pourquoi pas. Tout en soulignant qu'il s'agit d'un problème critique lié à l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis. Donc, Engie n'aurait aucune idée d'où vient et de comment et par qui est extrait ce fameux gaz qu'il s'engage à venir nous faire consommer jusqu'en 2032.
Ils savent comment il arrive, quand même. C'est du bateau, j'imagine.
Ouais, c'est le seul truc un peu qu'ils ont un peu en vue. Voilà, c'est. Voilà. Donc, du coup, c'est déjà signé et vous êtes peut-être déjà même en train de le consommer. Voilà, c'était le petit truc sur le gaz.
Moi, j'en mets opaque, hein, Engie.
Ouais. On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, et un agenda rempli ce soir pour la semaine à venir, semaine qui commence dès demain, si vous le souhaitez, à partir de 15h à la librairie La Griffe. La librairie La Griffe, c'est rue Sébastien Griffe, au numéro 5, à Lyon 7e, à la Guillotière. Et demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir, pouvoir discuter à La Griffe ? Eh bien, on va discuter de l'opéraïsme italien, Horrible du temps, donc à partir d'un ouvrage de Jacques Weinstein qui s'appelle L'opéraïsme italien Horrible du temps, qui est donc publié aux éditions à plus d'un titre. Et donc, l'opéraïsme, c'est quoi ? Allez-vous me dire ? Alors, évidemment. Alors, ça n'est ni l'ouvriérisme, ni des chanteurs d'opéra. C'est un mouvement fondé en Italie au départ qui parle de la priorité accordée au point de vue ouvrier, qui est un courant qui se développe en fait en Italie à partir des années 60 et a cherché à rénover la théorie marxiste à partir de la situation spécifique de l'époque. Et donc, si on veut, l'opéraïsme, de ce que j'ai compris du résumé que j'ai lu ce soir, c'est plus ou moins ce qui va aboutir à l'autonomie politique, hein, c'est-à-dire l'autonomie italienne qui naît en fait de marxistes qui vont de plus en plus adopter des pratiques, notamment d'illégalisme, d'autoréduction, etc., mais aussi de sabotage dans les usines qui vont aller vers notamment des actions individuelles de sabotage, etc. Donc, on va aboutir progressivement vers l'autonomie. Et donc, apparemment, Jacques Weinstein va nous écrire un peu une histoire de ça. Ça peut être très intéressant si vous vous intéressez aux évolutions des courants théoriques qui ont abouti quand même, effectivement, mine de rien, ça aboutit quand même à l'autonomie qui devient assez centrale dans les discussions politiques, notamment anarchistes, à partir des années 70. Voilà, l'opéraïsme, c'est demain, 15h, rue Sébastien Griffe à La Griffe.
Alors, et demain aussi, c'est aussi à 15h et c'est aussi dans une librairie, mais pas la même, parce que sinon il y aurait un problème, donc c'est à la Plume Noire. Alors, du coup, il y a la dédicace de la BD Autopsie des échos de ma tête, suivie d'une discussion sur la folie et les luttes folles. Donc, c'est la Plume Noire qui vous invite à tout ça, c'est à 15h demain, au 8 rue Diderot. Et donc, la Plume Noire accueille donc Frix, qui est l'auteur de la BD, et il y aura une discussion ensuite. Je peux vous faire le petit résumé de la BD qui a été indiqué. Frix est fou, c'est lui qui le dit. Son entourage médical utilise d'autres mots, un vocabulaire compliqué et parfois incompris du grand public. Mythomanie, paranoïa, hypersensibilité, dysmorphophobie, j'en ai dit un trop, épisode maniaco-dépressif. Il explique ses voix, ses échos dans sa tête qui guide sa vie. Grâce à un travail graphique efficace, elle rend visible ses émotions, ouvre son crâne et parle de lui tout en étant didactique, fort et militant. Le livre qui se ressent et qui aidera à comprendre les mécanismes obscurs du cerveau et qui peut se cacher derrière le mot « folie ». Et donc à 17h, il y aura une discussion autour de la folie et des luttes et c'est aussi l'occasion de prendre contact avec l'association Andipsy Lyon 2. D'ailleurs, c'est plutôt raccord avec ce qu'on disait tout à l'heure puisque souvent on pense handicap,
finalement, mobilité, fauteuil roulant, c'est beaucoup ce qui prédomine, mais il y a au moins 30% des personnes qui touchent l'AH qui, en fait, sont des handicapés par une entrée psy, et il ne faut quand même pas l'oublier. Donc tout ça, c'est à prix libre, ça permet de faire vivre le lieu, et comme toujours, il y aura du gel hydroalcoolique et des masques à votre disposition.
Et donc ensuite, bah moi je vous donne rendez-vous lundi 6 décembre, donc à 18h, ou donc à l'école Ernest Renan à Villeurbanne, qui se mobilise aux côtés de ses 13 élèves sans toit. Alors à Villeurbanne, les trois écoles d'Ernest Renan se mobilisent face à la situation inacceptable dans laquelle se trouvent 13 de leurs élèves. Et donc ils appellent à se rassembler devant l'école maternelle, à 18h, donc lundi, et envisagent d'occuper les locaux pour mettre à l'abri ces familles si aucune solution n'est trouvée. Donc le collectif Renan sans toit, créé ce jour pour soutenir les familles, s'associe au collectif Solidarité Cusset, au collectif Lyonnais pour l'accès à la scolarisation et le soutien aux enfants des squats, et au centre social de Cusset, pour rappeler que, comme le stipule l'article 3452-2 du Code de l'action sociale des familles, toute personne en situation de détresse a accès, sans aucune condition de régularité de situation, à tout moment à un hébergement d'urgence. Du coup, il y a des goûters solidaires qui sont organisés de 15h50, 17h et 18h, donc le lundi 6 décembre. À l'école maternelle, donc Ernest Renan A, et lundi 13 décembre, mais peut-être j'anticipe sur la suite de l'agenda, non, je pense pas, lundi 13 décembre à l'école primaire Ernest Renan B. Voilà, donc tous là-bas à 18h le lundi 6.
J'espère que vous avez bien tout noté et surtout que vous avez réservé toute votre semaine, parce que le mardi 7 décembre, c'est grève, manifestation et assemblée, oui, les trois dans le social et surtout à Lyon. Alors, il y a pas mal de manifestations dès demain dans le domaine de la santé un peu partout en France. À Lyon, j'ai l'impression que c'est surtout mardi que les gens vont se mobiliser. Pourquoi ? Ce sera une journée de grève nationale dans les secteurs social, médico-social et sanitaire. Pour la faire vite, parce qu'on va vous en reparler forcément, et si vous avez bonne mémoire, on vous a un peu parlé. Depuis de nombreuses années, la maltraitance des personnes accueillies est de plus en plus présente, touchant leur proches quand elles en ont. Cette situation a aussi des répercussions sur les salariés qui composent avec le peu de moyens financiers et humains alloués. Du coup, mardi 7 décembre, aura lieu une grève nationale dans le secteur social. Le rendez-vous est donné à 13h30 à Jean Massé pour la manif, à 15h30 devant la Préf pour la conf de presse si ça vous intéresse, et surtout à 16h30, Assemblée Générale, Bourse du Travail, Place Guichard.
Et puis le 7, donc c'est aussi mardi, il y aura aussi un rassemblement autour d'un procès pour agression sexuelle. Alors vous pouvez retrouver un long communiqué en détail, j'imagine, sur rebellion.info. On va quand même vous donner les grandes lignes. Alors pourquoi un rassemblement sur ce procès particulier pour agression sexuelle? Eh bien parce qu'il est assez symptomatique de pas mal de choses. En réalité, globalement, c'est depuis 2017. Un homme qui est un professionnel du massage, qui officie depuis environ 25 ans au sein d'une herboristerie, l'herboristerie Gailleton, place Gailleton à Lyon. Et ce professionnel, sous prétexte de massage lymphatique, en fait, a agressé sexuellement un grand nombre patientes ou clientes. Des plaintes ont commencé à émerger. Et puis, ce procès, pour l'instant, donc la plainte a été déposée en 2017, donc ça fait plus de 3 ans maintenant, et il est assez révélateur de la manière dont la justice patriarcale traite les cas d'agression sexuelle, puisque d'abord, il y a eu des plaintes classées sans suite, donc finalement même pas examinées vraiment par la justice. Puis, lors de l'appel, le juge a autorisé ce monsieur, qui avait plusieurs plaintes pour agression sexuelle, contre lui, à reprendre son activité de massage, avec comme seule contrainte de faire signer un formulaire de consentement au préalable. Donc on hallucine un peu sur le détournement de cette notion de consentement, comment elle peut être mise à mal par la justice. Porter plainte, évidemment, ça aussi c'est assez habituel, malheureusement, a été pour nombre de ces femmes une grande source de stress, de souffrance, voire de culpabilisation, avec les discours et notamment la pression qu'on peut connaître, notamment de la part des policiers. Et puis évidemment, on a un homme qui est en face contre-attaque, entre guillemets, puisque l'une des plaignantes est actuellement sous le coup d'une plainte pour diffamation. Alors, on reproche en permanence aux femmes de leur silence. Hein, donc, on est très souvent, quand il y a des cas d'agression sexuelle qui sortent sur des personnes connues, par exemple Nicolas Hulot récemment, on dit pourquoi elles n'ont pas porté plainte, etc. Pourquoi elles ne se sont pas exprimées. Mais en fait, dès qu'elles s'expriment, dès qu'elles osent s'exposer, ce qui se passe, c'est qu'on entrave leur capacité à parler. Et donc cette domination ici, elle est en plus renforcée par le fait que le monsieur était un professionnel dit de santé, même si c'est de la médecine alternative, donc on a une domination patriarcale très forte. En attendant donc, allez voir sur Rebellion un peu en détail plus cette affaire. Il y a un rassemblement de soutien le 7 décembre prochain devant le tribunal judiciaire rue Servian à partir de 13h30.
Et voilà, et pour le reste de l'agenda, vous pouvez vous référer à rebellion.info.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Eh ben Lily, c'est pas très sympa de nous dire que c'est la plus nulle des radios, mais je sais pas si... Effectivement, peut-être, ce soir, nos auditeurs n'ont pas tout donné. On a 2 ACAB au moins, mais est-ce les meilleurs? On vous laisse juger. On a reçu notamment une personne qui nous a dit « Des actionnaires capitalistes sur les aides bidons ». Et il y en a joli, un autre. Alors, il paraîtrait que les accords cachés approvisionnent les baraques ou les barils, mais on nous dit qu'il va falloir avoir des informations sur vraiment ce cheminement de toutes les énergies pour être sûr. Mais ne vous en faites pas, auditeurs, auditrices, on vous les donnera dans les prochaines semaines.
Et c'est pourquoi nous revenons la semaine prochaine. En attendant, quand le sage montre la pendule, le Canu Info se rend compte qu'il est 20h et Noise Pollution arrive immédiatement.
On subit des moyens de pression énormes ici.
Noise Pollution arrive immédiatement pour vous mettre de la dub et du dubstep dans les oreilles à la semaine prochaine.
Eh ben, presque.
On est encore à l'antenne. Bisous.